VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 11 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, une autre attaque dans le centre du pays a fait une trentaine de morts dans un village d'Ogon.
En Côte d'Ivoire, le parti d'Henri Conan-Bédier dénonce une exploitation tendancieuse des propos de l'ancien président sur les étrangers.
Au Gabon, formation d'un nouveau gouvernement après les révélations sur le scandale d'un trafic de bois précieux.
Le secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, est attendu dans les prochains jours au Soudan pour relancer le dialogue entre l'armée au pouvoir et les représentants de la contestation.
Ici à Washington, le président Donald Trump parle, sans les spécifier, de clauses non révélées de l'accord avec le Mexique sur l'immigration.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'attaque contre le village d'Ogon de Sobameda dans la nuit de dimanche à lundi a fait une trentaine de morts selon un bilan provisoire donné par le gouverneur de la région de Mopti. Des détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Le bilan de l'attaque est de 35 morts et des disparus, c'est-à-dire des gens qui ont quitté le village notamment sur les lieux. Nous sommes là avec la protection civile, la direction régionale de la santé, avec le procureur général, en présence des villageois. Nous avons sorti les corps, dénombrés 35. C'est ce qu'a déclaré le général Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti, sur les antennes de la télévision nationale. Avant d'ajouter que parmi les victimes, il y a 11 adultes et 24 enfants, qui ont tous été inhumés en sa présence. Boubacar Salif Traoré, expert en sécurité, membre de Afrique Globe Conseil.
Nous avons alerté à plusieurs reprises les autorités de manière directe et de manière indirecte sur l'évolution de la crise. Vous savez, ce n'est pas effectivement la première attaque, mais ce qui est étonnant, c'est que toutes ces attaques-là se déroulent de la même manière. Donc on a des hommes armés qui arrivent en début de soirée dans ces villages, qui ont tout le temps de commettre leur massacre sans aucune réaction de la part des autorités.
Les villageois ont expliqué qu'en faisant le décompte des corps, ils ont supposé que dans une famille de 20, s'ils trouvent 10 personnes, ils supposent que les autres personnes sont mortes. C'est ce qui a gonflé les chiffres. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Cette dernière attaque dans le centre du Mali fait suite au massacre le 23 mars à Ouagadougou de quelques 160 peuls, attaque attribuée à des chasseurs d'Ogon dans cette région. Ce n'est pas à un cycle de vengeance, de vendetta que ce pays doit être conduit, a déclaré à la télévision publique ORTM le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Suisse pour le centenaire de l'OIT, annonçant qu'il écourtait son séjour. Ibeka a appelé au contraire à des retrouvailles entre Maliens qui seuls vont nous permettre de rebondir et permettre à d'autres nations de survivre, car nous sommes en question de survie. Fin de citation.
En République démocratique du Congo, au moins 8 personnes ont été tuées dans des violences lundi en Ituri, dans le nord-est du pays, province touchée par l'épidémie d'Ebola. C'est ce qu'ont rapporté des sources locales et de la mission des Nations Unies, la MONUSCO. Un cycle de violences et de représailles, initié par des hommes armés non identifiés, a touché le territoire de Djougou, au nord du chef-lieu Bounia, non loin du lac Albert et de l'Ouganda. Ces nouvelles violences, comme celles du début 2018, ravivent le souvenir du conflit intercommunautaire entre éleveurs Emma et agriculteurs Lendou qui avaient fait des dizaines de milliers de morts en Ituri entre 1999 et 2003.
En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président Henri Conan-Bédier a dénoncé hier un mauvais procès après la condamnation par le gouvernement de ses propos contre les étrangers à 16 mois de l'élection présidentielle. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Le gouvernement a délibérément choisi des morceaux des propos du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, propos sortis de leur conteste pour en faire une exploitation tendancieuse, a affirmé le chargé de la communication du PDCI Jean-Louis Billon. Il a dénoncé le laxisme des autorités face aux problèmes évoqués par le président Bédier, les conflits intercommunautaires récurrents, l'orpaillage clandestin et des nombreux cas de fraude, selon lui, sur l'identité ivoirienne. Le gouvernement ivoirien a condamné les propos appelant à la haine de l'étranger tenus par l'ex-président 3 jours plus tôt, rappelant les récentes et meurtrières violences intercommunautaires dans le centre du pays. On fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela, a déclaré le président Bédier devant des délégués de son parti dans sa résidence de Daoukro. Dans une vidéo diffusée sur le site internet du PDCI, M. Bédier incrimine des étrangers armés présents en Côte d'Ivoire. Le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert d'orpaillage, a-t-il insisté.
Au Sénégal, le ministre de la Justice a ordonné hier une enquête complète sur des contrats pétroliers et gaziers épinglés dans un reportage de la BBC qui a accusé de corruption Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, et la société BP de priver le pays de futurs revenus. Dans un communiqué, le ministère de la Justice évoque la circulation sur les réseaux sociaux d'un rapport de l'inspection générale d'État datant de septembre 2012 dont l'authenticité n'a pas été avérée. Aliou Sall a formellement démenti les accusations portées contre lui.
Le Gabon a un nouveau gouvernement depuis hier, quelques semaines après la révélation d'un trafic de bois précieux qui a provoqué un scandale politique dans le pays. Il s'agit d'une équipe restreinte rendue publique par le cabinet présidentiel. Elle passe à 28 membres contre 38 pour le précédent cabinet. Des détails à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Dans son ossature dévoilée par le secrétariat général de la présidence de la République, le nouveau gouvernement gabonais se caractérise entre autres par le jumelage de quelques ministères. L'intérieur rejoint la justice, les solidarités nationales s'associent à l'économie et aux finances. Autre fait, le nombre de ministres délégués est ramené à 6 contre 8 dans la précédente équipe. Une dizaine de sorties, de retours et 3 nouveaux visages sont à signaler. Des jeux de chaises musicales et des départs presque inattendus complètent ce tableau. Il en est ainsi de Franck Guéma qui sort de l'environnement et du plan climat pour la jeunesse et les sports, poste co-occupé Alain-Claude Bilibinzé, devenu ministre des Affaires étrangères en remplacement de Régis Imongo. Ali Bongo Ndimba a souhaité un cabinet restreint pour conduire sa nouvelle gouvernance économique et sociale, une vision basée sur la moralisation de la vie publique et l'accélération des réformes de l'État. Autant dire que pour l'acte 2 de son récent discours à la Nation, il vient d'être servi par son premier ministre. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Le secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, doit se rendre dans les prochains jours au Soudan pour appeler l'armée au pouvoir et les représentants de la contestation à la reprise du dialogue. Sa visite à Khartoum est prévue au cours d'une tournée africaine du 12 au 23 juin. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le département d'État a précisé lundi que l'émissaire du gouvernement américain appellera à la fin des attaques contre les civils. Les États-Unis ont condamné la semaine dernière les attaques contre les manifestants qui réclament le transfert aux civils du pouvoir après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril, remplacé par une junte militaire. Les négociations sont suspendues depuis le 20 mai en raison de divergences sur la composition d'une nouvelle instance qui serait chargée de mener la transition pendant 3 ans. Le pouvoir de Khartoum a tenté de faire baisser la tension en annonçant dans un communiqué l'arrestation au sein des forces régulières de plusieurs personnes en lien avec la répression qui a fait depuis le 3 juin 118 morts et plus de 500 blessés. Même les lignes de connexion Internet coupées dans l'après-midi lundi ont finalement été rétablies en fin de soirée. Mais la contestation a affirmé que le mouvement de désobéissance civile continuerait jusqu'à ce qu'un pouvoir civil soit instauré.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a eu à répondre hier à la Maison-Blanche aux questions des journalistes sur le récent accord avec le Mexique concernant le contrôle de l'afflux de clandestins vers les États-Unis. Et il n'a donné aucune précision sur ce qu'il a qualifié de partie non révélée de cet accord. C'est tout simplement un autre aspect de ce que nous avons fait, a dit M. Trump, quand la Voix de l'Amérique lui a fait remarquer que le Mexique avait démenti l'existence d'une telle clause secrète, il a répondu « Je ne crois pas qu'ils vont continuer à démentir pendant longtemps ». Tout est fait. Selon l'AFP, Mexico a reconnu que l'accord avec Washington pourrait être révisé d'ici 45 jours sur la question du droit d'asile si l'afflux des clandestins vers les États-Unis ne se tarissait pas.
À New York, un hélicoptère s'est posé brutalement lundi à la mi-journée sur le toit d'une tour de bureau au cœur de Manhattan, causant la mort du pilote et faisant trembler tout l'immeuble. Les causes de l'accident, survenu sur une tour de 54 étages, alors que la ville était recouverte d'un épais brouillard, n'étaient pas immédiatement connues et faisaient l'objet d'une enquête des autorités locales et fédérales. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En RDC, New Age vient de signer avec Lukoil Upstream Congo un accord de vente de ses 25% de participation sur le bloc pétrolier situé dans le bloc en mer Marine 12 et opéré par l'Italien Eni. La transaction représente 800 millions de dollars soumise aux conditions d'usage et à l'approbation du gouvernement congolais. Le bloc Marine 12 est un périmètre qui inclut les trois découvertes de pétrole et de gaz, Litchendili, Néné Marine et Minsala. Le gouvernement éthiopien a conclu avec l'Agence française de développement un accord de près de 85 millions d'euros. Cet accord vise à financer le second plan de développement économique de l'Éthiopie qui couvre la période 2015-2020. La ligne de crédit sera accompagnée d'une subvention de 15 millions d'euros de l'institution financière française. Pour terminer, le Royaume d'Eswatini a lancé un appel d'offres pour la construction d'une centrale d'une capacité de production d'énergie solaire de 40 MW en vue de stimuler les investissements étrangers et de réduire sa dépendance vis-à-vis d'Eskom, la centrale électrique sud-africaine actuellement en difficulté. Le gouvernement prévoit d'étendre la production d'énergie hydroélectrique à partir du projet de barrage de Maguga. À compter de juin de cette année, la société aura également accès à 10 MW supplémentaires provenant d'une centrale solaire située au sud-est d'Eswatini. Le pays veut produire 100% de sa propre puissance d'ici 2034.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Commençons par le Ghana qui a dévoilé sa liste de 23 joueurs retenus pour la CAN 2019.
Oui, les frères André Jordan Ayou, Assamou Adjan, Atou Majeur des Black Stars, ainsi que tous les autres cadres habituels font partie des joueurs sélectionnés. Assamou Adjan, 33 ans, buteur de la sélection, mécontent de la perte du brassard de capitaine au profit d'André Ayou, avait annoncé le mois dernier sa retraite internationale, mais il est revenu sur sa décision après intervention du président ghanéen. 9 autres rescapés de la CAN 2017 seront de la partie. Il s'agit entre autres de John Boy, Jonathan Mensah, Baba Rahman, Thomas Partey, Christian Atsou, Moubarak Waka. Pour sa part, Kwadwo Asamoah effectue son retour. Sa dernière CAN remonte à 2013. En revanche, l'attaquant du FC Nantes, Majid Waris, n'a pas été retenu comme lors de la CAN 2017.
Le Nigeria, lui, ira à la CAN sans son attaquant de Leicester.
Kelechi Iheanacho, auteur de 30 matchs et un but cette saison avec les Foxes, n'a pas été retenu par le sélectionneur Guernetro. Par contre, John Obi Mikel, Ahmed Moussaï, Alex Iwobi ont été appelés, tout comme le bordelais Samuel Kalou. En Égypte, le Nigeria évoluera dans le groupe B avec la Guinée, Madagascar et le Burundi. De son côté, le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, a sans surprise retenu ses deux pièces maîtresses, l'attaquant de l'US Tatooine de Tunisie, Ismaël Diakité, et le milieu polyvalent du DRB Tadjani Nanet d'Algérie, Mohamed Delayali. Pour rappel, c'est la première participation des Mourabitoun à l'épreuve continentale. Et basketball pour finir, Idrissa, la nuit dernière, s'est joué le match numéro 5 de la finale NBA entre Toronto et Golden State.
Le double champion NBA en titre, Golden State, a réduit le score à 3 victoires à 2 face à Toronto en s'imposant 106 à 105 lundi dans la salle des Raptors. Les Warriors sont toujours dos au mur et n'ont plus le droit à l'erreur avant le match numéro 6 qui aura lieu jeudi chez eux à Oakland. La rencontre a été marquée par le retour de Kevin Durant, blessé depuis un mois, mais le meilleur marqueur des Warriors a rechuté et a quitté ses coéquipiers en début de deuxième période. Toujours en basket, Tony Parker a fait ses adieux au parquet.
18 saisons en NBA, 4 titres de champion, 1 euro avec la sélection française à 37 ans. Tipeee, comme on l'appelle ici en NBA, a annoncé hier qu'il prenait sa retraite sportive. Si c'est sous les couleurs des Charlotte Hornets qu'il prend sa retraite, club qu'il a rejoint l'été dernier, c'est au San Antonio Spurs que son avenir sera jamais associé. Merci Tony pour tous ces moments de bonheur partagés. On réagit en français. Les Spurs sont sur leur compte Twitter. Le club texan, où il a fait 17 ans, l'avait sélectionné à la 28e place de la draft 2001, alors que Tony Parker, 19 ans à l'époque, n'avait que 2 saisons professionnelles dans les jambes avec le PSG Racing à Paris.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan, les meneurs de la contestation civile ont appelé à la désobéissance civile et à une grève générale. Une action de protestation contre les militaires putschistes au pouvoir, accusés d'être responsables du bain de sang du 3 juin. La dispersion violente du sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum et la répression qui a suivi ont fait plus de 100 morts. Les contestataires continuent de réclamer un partage du pouvoir avec les civils pendant la période de transition. Au moins 4 personnes ont été tuées dimanche dans la capitale par les forces de sécurité. Sur place, hier à Khartoum, notre correspondante Patricia Huon.
C'est une deuxième journée ville morte à Khartoum. Les meneurs de la contestation civile ont appelé à une grève générale à partir de dimanche et le mot d'ordre est largement suivi. Aujourd'hui, dans les rues, une légère reprise d'activité. Mais presque tous les commerces restent fermés, à de rares exceptions près, comme de petits magasins d'alimentation ou cette boulangerie.
Les gens doivent se nourrir. Et moi aussi, personnellement, j'ai besoin de mon salaire. Je suis payé à la journée. Mais si les gens veulent faire grève, je les soutiens.
Dans la capitale soudanaise, beaucoup survivent au jour le jour. Pour eux, une journée sans travailler, c'est une journée sans salaire, parfois sans manger. Combien de temps le mouvement de grève peut-il tenir dans ces conditions? Devant un rare supermarché ouvert, une femme évoque la difficulté de ravitailler sa famille.
Ce n'est pas facile de faire des provisions en ce moment. Tout est fermé et les prix restent très élevés. J'ai pu acheter de quoi tenir une semaine, mais après, je ne sais pas ce qui va se passer.
Dans les rues, l'armée est toujours bien visible, tout comme les paramilitaires des forces de soutien rapide accusées du massacre du 3 juin devant le quartier général de l'armée. La répression de la protestation se poursuit. Hier matin, des jeunes s'étaient rassemblés autour de barricades faites de briques et de branchages érigées dans les ruelles de plusieurs quartiers. Selon des témoins, la police a ouvert le feu. Un jeune homme a été abattu.
Ils avaient commencé à placer des pierres sur la route pour faire une barricade. Ils n'étaient pas armés, mais la police est venue avec des armes. Elle a tiré. C'était intentionnel. La balle a atteint ici, sous la tête. C'est terriblement triste.
Beaucoup d'habitants restent cloîtrés chez eux par prudence. L'immense majorité continue de prôner une résistance pacifique, mais certains ne contiennent plus leur colère.
Il y a déjà eu un massacre. Ils violent des femmes, ils tuent des enfants. Ce n'est pas un combat égal. Ils ont le soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes. Tout ce que j'ai à dire au monde, c'est donnez-nous des armes. Tous ceux qui sont ici savent se servir d'une arme. Ce qui se passe ici n'a rien de pacifique.
C'est un bras de fer inégal qui se joue entre civils et militaires. Pour l'instant, peu de signes laissent présager une possible reprise des discussions. Patricia Huon, Khartoum, pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, l'augmentation spectaculaire du nombre et de l'intensité des attaques entre éleveurs peuls et agriculteurs au cours des dernières années est devenue de plus en plus préoccupante. Les États les plus touchés par ces affrontements sont Benue, Taraba et l'État du Plateau. Ces violences ont fait beaucoup de morts et de déplacés. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, vient d'effectuer une visite dans l'État de Benue. Voici son reportage.
Benue est considéré comme le grenier du Nigeria et l'état le plus affecté par les conflits entre éleveurs, Fulani et agriculteurs Tiv. Dans cette zone, les violences intercommunautaires se sont exacerbées ces deux dernières années, malgré l'adoption d'une loi interdisant la transhumance. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres chassés de leur village vivent dans les camps de déplacés installés par les autorités locales. Philippe Oussatse, agriculteur, a été contraint d'abandonner son champ pour se réfugier dans ces camps.
Une nuit, nous avions entendu des coups de feu sporadiques aux environs de 23 heures. Les gens couraient dans tous les sens, donc moi aussi, j'ai quitté mon village avec ma famille. D'ailleurs, je ne savais même pas la direction que ma femme avait prise avec mes enfants. C'est seulement le lendemain que j'ai pu les retrouver dans une communauté voisine.
Les attaques se produisent souvent lorsque le bétail s'égare sur les terres agricoles et détruit les produits des agriculteurs. Les deux parties s'accusent mutuellement. Chetima Mohamed est le secrétaire général de l'association des éleveurs Fulani de l'état de Benue.
Nous avons observé trois choses dans cette crise. D'abord, ils l'ont politisée. Deuxième chose, les jeunes considèrent cette crise comme une source de revenus. Ensuite, il y a des criminels dans les deux groupes. C'est la réalité.
L'accès à la terre et à l'eau, les sentiers de pâturage, la sécheresse, la désertification et l'appartenance ethnique contribuent aussi à ces violences. Mais l'augmentation soudaine du nombre d'attaques et de victimes suggère que le conflit va au-delà de l'accès aux ressources naturelles et au changement climatique. Ces violences ont instauré un climat de méfiance et de colère dans l'état de Benue et la police et les autres agences de sécurité ont donc envisagé une autre approche pour tenter de trouver une solution à la crise. Anen Sewesi Catherine, la porte-parole de la police de l'état de Benue.
Nous avons adopté une méthode qui implique tout le monde et à tous les niveaux afin de permettre le retour d'une paix durable. Et je dirais que la situation est calme en ce moment, mais nous continuons à faire de notre mieux pour mettre tout en place.
Selon un rapport publié en 2017 par Global Terrorism Index, il y a eu 716 affrontements entre 2012 et 2018 entre agriculteurs, peuls et éleveurs au Nigeria. Gilbert Tamba a Benue au centre du Nigeria, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Cameroun, les défis du foncier préoccupent les jeunes chercheurs. Selon les statistiques des organismes de la société civile, plus de la moitié des audiences en justice concernent les litiges fonciers. Une vingtaine de jeunes chercheurs, francophones et anglophones, viennent d'achever une session spéciale de formation et de renforcement de leurs capacités sur le sujet. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Ces jeunes chercheurs ont formé un groupe nommé les experts fonciers du Cameroun. Ils travaillent sur l'accès à la terre au Cameroun et les conflits qui en découlent.
Mon thème porte sur l'accès des femmes rurales à la propriété foncière, car du village Bagom dans le département Junou.
Aude Passman Diamkoudé est étudiante en master géographie à l'université de Yaoundé 1. Ses recherches sur le foncier concernent un village de la région de l'Ouest.
Un village sorti des convoitises, c'est une mamelle nourricière au niveau de sa richesse de ses terres. Là, il y a des conflits fonciers. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes, alors que ce sont elles qui utilisent plus ces terres pour faire les cultures. Malheureusement, en tant qu'utilisatrices, pas propriétaires, elles ne peuvent pas posséder ces terres.
Dans la région du sud-ouest, en zone anglophone, l'on a enregistré dès 2013 l'un des plus importants conflits fonciers du Cameroun. Les populations locales se sont soulevées contre l'implantation de l'agro-industriel Heraclius Farms, accusé d'exploitation illégale du bois après accaparement des terres. La société avait pourtant obtenu de l'État une surface de 70 000 hectares pour la production d'huile de palme. Linda Ndouanla, étudiante en master, a côtoyé les riverains de ce projet.
Le gouvernement a établi des politiques et des lois qui ne sont pas nécessairement avantageuses ou adaptées aux populations. Les populations ont leurs propres coutumes, traditions qui concernent les questions foncières et c'est très différent de ce que le gouvernement dit. Donc, sur le terrain, il n'y a pas de concordance de point de vue.
Avec les experts fonciers du demain, la société civile espère une meilleure appropriation des enjeux. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
La complexité du foncier ne peut être atténuée que par le recours à des disciplines différentes. Dans notre système éducatif, on est habitué au cloisonnement. On arrive difficilement à formuler une législation qui corresponde aux attentes de tous les acteurs. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de montrer à des jeunes qui se sont intéressés déjà à la question foncière, c'est de leur dire, c'est très utile d'étudier le foncier du point de vue de votre discipline, mais c'est encore plus utile de comprendre qu'il y a d'autres disciplines qui s'intéressent au foncier et qui peuvent éclairer votre compréhension du foncier à partir de votre discipline.
Un complément de formation apprécié par les jeunes chercheurs réunis à Yaoundé.
C'est vraiment une science très riche. Ça nous a permis de comprendre que la question foncière n'est pas seulement un problème géographique.
Nous avons des disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la loi foncière aussi est très importante et doit être considérée pour avoir une approche effective et solutionner la question foncière au Cameroun.
Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
L'Afrique dispose des ressources financières nécessaires pour financer son agenda de transformation économique. Le continent doit cependant, selon les experts, libérer son potentiel pour profiter de ses capitaux en vue d'accroître la force de travail mobilisable. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Abidjan l'économiste et analyste financier, membre du think tank Finance Africa, Cédric Achille Mbeng Mizoui.
Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1,2 milliard d'habitants et dans une vingtaine d'années, nous passons à 2,5 milliards sur le continent. Ça demande beaucoup d'investissement. L'Afrique peut engager des réformes pour permettre d'absorber ce potentiel humain qui arrive et aussi de transformer radicalement la vie des Africains pour une meilleure croissance et bien sûr atteindre les objectifs que nous sommes fixés au niveau de l'Union africaine.
Concrètement, vous parlez de quel type de réformes ?
Essentiellement, nous parlons d'industrialisation. Tous les pays et tous les groupes de pays qui ont vu leur population faire un bond en avant sont passés par l'industrialisation. L'industrialisation, on parle particulièrement des produits manufacturés, donc la transformation des matières premières en produits finis. Et ces pays qui ont pu le faire ont, dans ce mouvement, entraîné une transformation radicale de leur société, que ce soit au niveau du système éducatif, que ce soit au niveau du système financier et même au niveau des infrastructures. Donc l'industrialisation, c'est le point central de toute cette question de transformation et tout le reste va suivre.
Mais il faut d'abord résoudre le problème de l'énergie.
Tout à fait. On ne va pas développer toutes les sources d'énergie, mais on va développer les sources d'énergie qui vont permettre d'asseoir ces industries que nous voulons lancer au niveau du continent.
Le système éducatif africain n'est pas adapté aux besoins du moment.
Oui, on a des défis, c'est vrai. Et c'est pourquoi cet ouvrage et d'autres communications que nous faisons, c'est pour attirer l'attention des dirigeants pour dire qu'il faut vraiment repenser la question de l'éducation. Il faut regarder toute cette jeunesse, toute cette énergie qui est là, qui est présente, pour trouver des moyens plus adaptés pour les former. Il faut investir davantage dans l'homme, dans le capital humain, pour s'assurer que les 2,5 milliards d'individus que nous allons avoir dans les prochaines années sont super bien formés et pourront rivaliser avec les autres régions du monde. C'est cela le vrai défi que nous avons.
Et quel est le problème important dans tout cela?
Il y en a plusieurs, mais le problème central, c'est de créer de l'espoir et des opportunités pour ces millions de jeunes Africains qui rentrent sur le marché du travail. Nous avons à peu près 18 millions de jeunes qui rentrent sur le marché du travail chaque année. Et nous allons aller comme ça crescendo pendant tout ce siècle. La population africaine des jeunes de moins de 18 ans représente à peu près 25% de la population infantile mondiale. C'est 4 fois celle de l'Europe. Et d'ici une vingtaine d'années, ce sera faire 1 milliard. Donc c'est ici où on a vraiment un vrai challenge. Trouver des réponses à cette jeunesse, trouver des moyens de créer de l'espoir sur le sol africain.
Cédric Achille Mbeng Mizoui, économiste et analyste financier.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.